La parole du jour avec Claude Frisch, diacre.
Bonjour à tous. Donc, je vais finir ce cycle sur quelques textes de la doctrine sociale de l'Église et je suis toujours dans l'encyclique de Jean 23. Donc, c'est l'encyclique Mater et Magistra en 1961 avec cette deuxième partie intitulée Précision doctrinale, avec, dans laquelle Jean 23 balaye tous les sujets habituels de l'enseignement social, donc les relations État-individu, la question du salaire juste, la propriété, l'entreprise, en insistant sur le principe de subsidiarité. Alors, en complément, il apparaît une nouvelle donnée que le pape dénomme socialisation, laquelle, naturellement, n'a rien à voir avec l'idéologie du socialisme. Cette analyse correspond précisément à la nouvelle étape de la vie des hommes. Elle est le fruit de la liaison qui s'établit à notre époque, entre les peuples, et ce d'autant plus que beaucoup sont sortis du colonialisme. Signalons par anticipation les approfondissements de cette conviction par Paul VI qui la traitera par le biais du développement en 1967. Jean-Paul II la ressaisira avec le principe de solidarité en 1987 et Benoît XVI en accentuera la portée théologique dans « Caritas in Veritate » en 2009. Et enfin, la troisième partie de « Mater et Magistra » aborde les nouveaux aspects de la question sociale, notamment les problèmes de disparité, d'injustice dans les rapports entre propriétaires de capitaux et salariés, les injustices et les évolutions dans le malaise qui oppose le monde agricole et les autres secteurs économiques, ou entre différents secteurs professionnels à l'intérieur d'un même pays, puis entre les régions d'un même pays, et entre les pays développés et sous-développés. Ensuite, le pape aborde cette question essentielle des problèmes démographiques, affirmant que la Terre peut encore nourrir beaucoup d'enfants avant d'en appeler à la concertation et la coopération internationale. Et enfin, sa conclusion s'intitulera « Les directives pastorales ». Alors, comment Jean 23 compose son analyse théologique ? Les paragraphes 47 à 49 mettent en évidence ce qui, pour le Saint-Père, constitue la réalité à mettre sous le regard de la foi, à savoir la multiplicité et la diversité des changements, et la manière dont ceux-ci conduisent à des disparités croissantes, encore exacerbées par la croissance des pays riches et qui pourraient s'avérer dangereuses pour la paix. La pensée sociale part ainsi de la vie humaine pour se mettre sous l'Évangile selon un processus de discernement que le Concile Vatican II reprendra par les termes de « signes des temps à discerner ». C'est d'ailleurs Jean 23 lui-même qui avait employé l'expression dans la bulle d'indiction du Concile en 1959. Pour résoudre ce nouveau problème social, Jean 23 fait une nouvelle fois appel au concept de justice, qui est à rechercher de toutes les manières possibles, et notamment en respectant le droit à la propriété personnelle, avec une insistance innovante sur l'initiative personnelle. Une parenthèse sur le concept de justice. Il y a à la fois la justice des hommes, mais n'oublions pas qu'il y a aussi la justice de Dieu, et que sa justice dans la Bible fait référence davantage à s'ajuster à Dieu qu'à la justice des hommes. Mais est-ce que ça n'est pas aussi essentiel que de se référer à s'ajuster à Dieu de manière individuelle et collective, et en même temps de conduire à plus de justice dans le monde entre les hommes. C'est une question. Le point 82 de l'encyclique le dit, la justice doit être observée non seulement dans la répartition des richesses, on est bien dans la justice des hommes, mais aussi au regard des entreprises où se développent les processus de production. Alors toutefois, les droits de l'individu sont toujours à articuler à ce qui doit les orienter et les encadrer. D'abord la soumission au bien commun, impératif absolu pour le vivre ensemble, et à répercuter à tous les niveaux de la vie commune. Cette affirmation du droit à la propriété conditionnée par le bien commun s'avère donc une fois de plus une constante de l'enseignement social de l'Église, reçue comme de droit naturel. Pour autant, jusque-là, l'Église niait, ou plutôt n'abordait pas forcément, ce qui relève du droit à la propriété collective. Parce que cela existe, bien évidemment, et c'est l'intervention de l'État qui la formalise, puisque les écoles sont une propriété collective, les hôpitaux, les cliniques sont des propriétés collectives. Donc il y a tout un ensemble de propriétés qui appartiennent à l'État ou même à l'Église et qui constituent ce qu'on pourrait appeler un droit à la propriété collective en complément de ce qui relève du droit à la propriété individuelle. Alors, si garantir le bien commun signifie aussi faire face aux disparités et travailler à les réduire pour une plus grande justice sociale, cela confirme que l'intervention de l'État est nécessaire, voire indispensable. Sinon, ce serait la guerre en permanence et la loi du plus fort qui l'emporterait sur le nombre majoritaire des plus faibles qui, évidemment, ne possède pas, qui ne possède en fait que la force de travail et non pas le capital. Alors, la socialisation, au titre de mot-clé de cette encyclique, met en évidence que les mutations économiques et industrielles accroissent les interdépendances et élargissent les relations sociales. Dans la société moderne, chacun pour sa vie et pour assumer ses propres besoins est de plus en plus dépendant à des niveaux divers de réseaux relationnels. Ce phénomène est positif et ouvre à une solidarité sociale plus effective, plus entrecroisée, plus internationale. Un second point mis en valeur par l'encyclique, c'est qu'en contrepartie, des risques existent qui mettent en péril la légitime liberté et indépendance de la personne humaine, y compris de par l'augmentation inévitable de l'étatisation et de la bureaucratie. Donc tout sans excès. Il faudra donc compenser par un accroissement de responsabilité et notamment en appel au principe de subsidiarité qui trouve ici une place tout indiquée, invitant à ce que les personnes et les corps intermédiaires exercent leur juste part de responsabilité, qui, si elle n'est pas respectée, à ce moment-là, est rectifiée, j'allais dire, par l'intervention de l'État. En arrière-fond, une fois encore, la nécessité que tous travaillent en vue du bien commun, c'est-à-dire à l'ensemble des conditions sociales qui permettent à une personne d'atteindre mieux et plus facilement son plein épanouissement, l'État lui-même se tienne à cet objectif de coordonner et favoriser la qualité de vie humaine de chaque personne, non seulement individuellement, mais dans les groupes auxquels elle appartient. Il doit aussi porter attention particulière aux plus faibles et démunis des membres de la nation. En conclusion, nous dirons que les théologiens ont caractérisé Mater et Magistra comme une encyclique de transition, d'abord par sa datation, au seuil du Concile Vatican II, puisque l'Église qualifie son rôle comme mater et magistra, l'Église mère et éducatrice. Elle enseigne, mais non sans une certaine hauteur, assurance fondée dans le Christ, mais qui risque souvent de la désolidariser du reste de l'humanité. Elle rappelle l'origine créée de l'humanité et l'indication de sa fin surnaturelle. Et puis il y a eu donc dans la foulée Gaudium et Spes, mais là nous en parlerons une autre fois. C'est là l'enseignement de l'encyclique de Vatican II, et donc ce sera une nouvelle étape. Je vous remercie, j'espère ne pas avoir été trop compliqué. En tout cas, j'espère vous avoir donné le goût d'aller voir un petit peu ce qu'écrit sur la question sociale le magistère de l'Église. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.